Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux de ce vendredi, de cette fin de semaine. Alors, pour finir cette semaine, on finit en musique, comme d'habitude. Donc, on va recevoir l'auteur, compositeur, interprète Patrick Prévost, qui nous présente son troisième album, Nova SS. Ensuite, on va d'abord avoir notre chroniqueuse Lem, qui est avec nous, pour nous parler de Montréal, en évoquant, dit-elle, des faits incongrus que beaucoup de Montréalais ignorent. On l'appelle dans un instant pour en savoir plus. Restez avec nous. Pour l'instant, on part en musique avec Joey, qui nous chante le blues.
Joe. Blues, c'est la loose, la nuit je baise, pour qu'il s'éteigne, c'est fait.
Elle me fait la gueule, mon amour me fait la guerre, je resterai bien toute seule, j'irai bien voir la mer. J'ai le blues. Le temps s'étire et la nuit s'éternise, à plonger dans le vide, je me cristallise parce que j'ai le blues, ma guitare m'enlace, le jean danse sur la table et moi je tourne, tourne, tourne. Paris s'endort, le moindre mal me fait du tort, mélancolique dans mon confort, pourquoi j'exprime Baudelaire et mort. J'accuse la lune, accumule les lacunes, mon blues donne le ton et tu donnes le thème parce que je le peintre enfile sa blouse, tu me files le blues et fais l'en est jalouse, tu me files le blues, la pluie chantonne Paris c'est ça. J'ai toujours mal, mais je m'en sors. Mélancolique dans mon confort. J'arrête le spleen, Baudelaire est mort.
Alors, on est avec Lem. Bonjour, Lem.
Salut, Arlette. Comment ça va?
Eh bien, je ne sais pas comment je dois aller. J'ai vu que pour ton entrevue, donc j'ai bien écrit ce que tu m'as envoyé, c'est-à-dire qu'on va parler de Montréal en évoquant, m'as-tu dit, des faits incongrus que beaucoup de Montréalais ignorent. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se cache là derrière.
Ben en fait, alors tu vas rire, j'avais prévu une chronique tout à fait autre au départ et en fait, j'ai joué au Trivial Poursuite cette semaine avec une amie, mais un vieux de la vieille, là, un Trivial Poursuite québécois.
D'accord. Genre dans les premiers qui ont été faits, quoi, pas ceux qui ont été faits plus récents ou pour les enfants ou tout ça?
Mais c'est ça, c'est clairement une édition des années 60-70, là.
Ah d'accord.
Imagine-toi que j'avais zéro réponse. Et en fait, ça m'a amené sur un fait que j'ai trouvé étonnant. Puis j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé ça passionnant finalement. Je m'arrêterai pas sur ce fait-là, mais je vais quand même te le dire parce que je trouve ça intéressant. C'est ce qui m'a amené à faire la recherche que j'ai faite ensuite. Antoine Toutant, en 1906, a été la première victime de la circulation au Québec.
Oui. Et alors ?
Moi, j'ai trouvé ça fou. Alors, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour avoir des accidents ? Ils roulaient à 100 km/h à l'époque. Et en fait, donc, c'est pour ça...
Et c'était en quelle année ? Attends, c'était en quelle année ?
En 1906.
Bah, 1906, alors, tu peux quand même avoir des...
C'est un peu drôle. Ouais. Ben, je me dis, ils ne roulaient pas à 80 km/h, quoi. Surtout en ville. Alors, je suis allée quand même faire ma petite recherche parce que c'est arrivé à Montréal, donc, sur la Sainte-Catherine. Donc là, j'imaginais bien qu'ils n'étaient pas en plein run, tu sais. Et en fait, non. Alors, pour avoir poussé un petit peu, j'ai parlé les détails parce que c'est pas l'objet de la chronique, mais ce monsieur-là, en fait, a laissé passer le tramway et une voiture a coupé juste derrière et lui est rentré dedans. Donc, malheureusement, il est décédé des suites de son accident. Mais j'ai trouvé ça assez original quand même. Enfin, ça m'a interpellée.
Alors du coup, tu vas nous faire jouer au Trivial Poursuit.
Non, quand même pas. Non, mais alors là, je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a des choses étonnantes comme ça qu'on pourrait ne pas savoir tout en habitant à Montréal ? Et là, je me suis mise à creuser. Qu'est-ce que Montréal nous cache ?
Oui,
et
par exemple.
J'ai trouvé ça assez sympa. Alors, le savais-tu ? Montréal est la plus vaste des 200 îles constituant l'archipel d'Hochelaga.
La plus vaste des îles constituant Hochelaga ?
La plus vaste des 200 îles qui constituent 200. L'archipel d'Hochelaga.
Je ne savais même pas qu'il y avait 200 îles.
Ben, tu vois.
Déjà, au départ.
C'est fou, hein ? Le Mont-Royal, alors, donc ça, je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes savent quand même. Le Mont-Royal, dit la montagne, a donné son nom à la ville à trois sommets. Donc, le Mont-Royal, l'Outremont et le Mont Westmount.
Ah bah alors ça, par contre, moi, tu sais, je suis pas arrivée depuis si longtemps que ça, mais on peut poser la question à Maurice. Tu savais ça, toi, Maurice ? Oui, il le savait. Bon, bah ça va.
Et oui, mais la petite chose que je veux ajouter à ça, c'est que, est-ce que tu savais que, bah Maurice aussi d'ailleurs, je t'invite à répondre, est-ce que vous saviez que le paysagiste de ces parcs, en fait, n'était nul autre que le monsieur qui a conçu le Central Park à New York.
Oh oui, c'est connu ça.
Ah bah alors, là, j'avoue mon ignorance là sur ce coup-là.
Est-ce que vous saviez également qu'à Montréal, aucun bâtiment ne peut, et c'est régi par une loi, être plus haut que le Mont-Royal ?
Ah bon ?
Oui, je pense qu'ils ont contourné récemment. Il y a un nouvel édifice qui va être plus haut que le Mont-Royal, c'est tout nouveau.
Ah, c'est tellement laid. Ah,
ça veut dire qu'on a le droit alors maintenant ?
Ben, ils ont contourné, oui. Il y a une passe, ils ont contourné le règlement.
D'accord.
Et alors, le prochain fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez étonnant et pour autant, ça explique énormément de choses. Est-ce que tu savais que Montréal était la capitale du hockey simplement parce que le premier match officiel du hockey qui a eu lieu le 3 mars 1875 avait eu lieu à la patinoire Victoria ?
1875, alors je savais que c'était la capitale du hockey, oui. La raison pour laquelle remonter à 1875, t'as dit non, pas du tout, ça je savais pas.
C'est fou, hein ?
Tu savais, toi ?
Non, je suis pas là, ok.
Je suis pas là, ok. Bon, mais ça,
ah, bah, moi non plus.
Moi non plus, mais je savais que quand on parle ok, oui, c'est le cas de le dire. Mais j'ignore. 1878.
75.
Non, d'une pipe en bois.
Est-ce que tu savais que Montréal est la seule ville canadienne à avoir accueilli les Jeux Olympiques à date, les Jeux Olympiques d'été, et que ça date de 1976?
Bah oui, ça, on savait ça. Ouais.
J'étais pas là.
Bah ouais, c'est ça.
J'aurais pu le savoir quand même.
On vient de finir de payer le stade.
Ah. Donc, oui, c'est ça, exactement.
Ouais. J'ai assez fumé pour.
Depuis 1976, ah dis donc, ça fait.
Alors,
ouais,
sais,
ça
on
fait
critique
un bail.
Montréal pour les trottoirs qui sont pas droits, les trous dans les routes, etc. Mais on peut quand même applaudir Montréal avec ses quelques 800 km de voies réservées aux vélos parce que c'est la ville. Nord-américaine qui possède le plus de pistes cyclables.
Mais dans les pistes cyclables, il n'y a pas de trous.
Non, effectivement,
c'est juste pour les voitures.
Mais les camions ne roulent pas non plus.
Oui, pas en avoir, je pense. Oui.
Bah écoute, alors moi, les quelques-unes que j'ai faites, je ne les ai pas vues. J'ai vu très lisse, tandis que pour les voitures, c'est le cadeau.
Oui, c'est exactement. Mais je pense que les camions n'y roulent pas, donc ça fragilise peut-être beaucoup moins le béton aussi.
Oui, bah ça, ce serait en cours d'une longue discussion, parce que quand on habite dans un pays comme celui-ci, on construit avec le matériel adéquat, non?
Ah oui, mais ça, c'est un autre débat.
Oui, c'est un autre débat.
Mais en tout cas, ça expliquerait pourquoi les pistes cyclables ne sont pas autant
abîmées, parce que les camions ne roulent pas dessus. En tout cas, oui, le peu que j'en ai vu là autour, c'était des belles pistes cyclables. Et j'ignorais qu'ils étaient... Combien tu dis qu'il y en a?
Il y a plus de à peu près 800 kilomètres.
Ah, ça fait énorme, hein?
C'est pas mal.
Allez,
hein,
une petite dernière avant la pause.
Allez, je la fais sous la forme de question. Pourquoi est-ce que les bagels montréalais sont les meilleurs et sont aussi croquants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur?
Parce que ce sont
les juifs qui les ont amenés. Il y a une question d'eau là-dedans, je m'en souviens plus c'est quoi, mais il y a l'eau.
L'eau
a un rapport dans la cuisson.
Alors? C'est parce qu'en fait, selon la tradition, on les fait bouillir dans une eau infusée de miel avant de les cuire au feu de bois.
Ah. Dans une eau infusée de miel?
Ouais.
Je les mangerai avec plus de délicatesse la prochaine fois.
Oui, hein.
Ah bah écoute, tu nous rends intelligent, donc oui, de l'eau infusée avec du miel. Et pourquoi? C'est une recette qui vient de loin?
Je sais pas, c'est une tradition. J'imagine que c'est quelque chose qui a été découvert au début des bagels et puis qui est resté.
Ouais, excuse-moi.
Qu'au Saviateur Bagel, ça vaut vraiment le détour.
Je pense que, excuse-moi, je pense que ça vient de l'Europe de l'Est, ces trucs-là.
Bah oui, c'est les Juifs qui l'ont amené.
Qui sont amenés,
oui,
ça, ouais.
Les bagels. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça doit être ça. Donc oui, le miel, ça paraîtrait plus vraisemblable. D'accord. Bon, bah on va faire une petite pause musicale, Lem, si tu veux bien.
Mais oui.
Et puis on te retrouve tout de suite après ça. Donc on va partir avec Cléa Vincent qui nous chante Recuerdo.
Thank you.
Alors là, on repart pour les questions surprises. Et puis maintenant, mon invité musical, Patrick Prévost, est arrivé. Bonjour Patrick. Donc, il va pouvoir peut-être m'aider à répondre à tes questions de Trivial Poursuite. Vas-y.
Yeah, mais c'est pas du Trivial. Ça vient de là, mais c'est pas... C'est
oui,
pas
non, mais je sais. Je te plaisante.
Okay. Alors, comme on est entouré de gens de Montréal, j'y vais avec ça.
Oui.
Qu'est-ce qui est arrivé à Youpi, la mascotte de la Ligue majeure de baseball, en 1989?
Ça, il va pouvoir y répondre. Bah, rapproche-toi du micro ça. Si tu veux y répondre.
Je crois qu'il s'est fait expulser du match.
Oui, c'est la première mascotte de la Ligue à se faire renvoyer d'une rencontre.
Ce qui était rendu un petit peu trop exubérant, hein, je crois.
Et il le savait... Il le savait aussi, Maurice. Mais ça, c'était normal, c'était une réponse pour les garçons. Voilà.
Ben, c'est ça.
Donc, tout va bien.
On passe en mode construction. On reste chez les gars.
Construction, OK.
La croix lumineuse du Mont-Royal. On le sait, elle s'impose sur 30 mètres à peu près de hauteur depuis 1924. Est-ce que vous saviez que c'est en fait au départ le projet du prêtre sulpicien Pierre Dupaigne qui devait permettre à la croix d'accueillir une plateforme en fait, d'observation dans les bras de la croix? Et faute d'argent, ça ne se fera absolument jamais.
Alors, je ne savais pas. Mais pourtant, il me semble avoir lu un petit quelque chose comme ça sur la croix au moment où je faisais ma première visite du Mont-Royal.
Mais
non, pas. Je t'en remercie, c'est très agréable. Oui, je sais, je ne parais pas mon âge.
Mauvaise âge. Je parlais de la croix.
Tu le savais?
Non, moi, la croix, c'est Jacques Cartier.
D'accord. Bon, alors là, tu as... Voilà. Tu as berné tout le monde.
Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'ait pas trouvé les sous pour le faire depuis ce temps-là.
Bah oui, c'est...
c'est la réflexion que je me suis faite aussi.
Grand bien nous fasse.
J'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce qu'elle est tournée vers l'Est?
Parce que c'est la meilleure région. J'en viens. Non, je plaisante. Je ne sais pas.
Pour que les pauvres la voient.
Non.
Parce que c'est les gens moins fortunés qui habitent dans l'Est des villes la plupart du temps. C'est eux qui en ont le plus besoin.
C'est pour
non,
ça
alors,
que j'y
vous
habite.
Allez rire. Sa position, en fait, a pour but de marquer l'appropriation de la ville par les francophones.
Ah, d'accord. Quel rapport les francophones avec l'Est?
Ben, parce que la France est à l'Est du Québec.
Ah, d'accord. Tu vois que ma géographie, elle est vachement bonne. J'ai pas été jusque-là. Moi, je pensais qu'au Québec. Moi, je sortais pas du Québec, alors je voyais pas.
OK. On retourne à Montréal et on y reste. Ça marche.
Allez.
Le 15 février 1839, cinq patriotes trouvent la mort par pendaison sur l'échafaud installé en face de l'ancienne prison des patriotes à Montréal qui existe toujours aujourd'hui au pied du pont Jacques-Cartier.
Oui.
Et est-ce que vous saviez que chaque année, pour souligner la Journée internationale des patriotes, de nombreux Québécois se réunissent près de la structure pour commémorer leur lutte? Et l'endroit aujourd'hui abrite le siège social de la SAQ.
Ah ben oui, mais c'est bien pour s'y abriter.
Ça s'appelait pas le pied du courant avant?
Pied du courant?
Oui, le truc de la SAQ, la SAC,
ouais.
La Société des alcools, ça s'appelait le pied du courant.
Le pied du courant? Ouais. Ah d'accord, c'était plus joli quand même que la SAQ.
Ben, d'où l'expression « avoir une bonne descente », j'imagine.
Et ça aussi. Mais bon, c'était bon endroit pour fêter ça. Je comprends que ça se fasse encore. Alors, une autre? T'en as une autre ou quoi?
Il y a un truc qui m'a éclaté. Ah oui, j'en ai plein. Il y a un truc qui m'a éclaté. Autrefois, propriété de l'ancienne laiterie Guaranteed Pure Milk, la pinte de lait située sur la rue Lucien Lallier a failli disparaître en 90 après la fermeture de l'entreprise. Grâce à l'héritage, à Héritage Montréal, elle va être sauvée. Est-ce que vous saviez que sa structure était d'une hauteur de presque 10 mètres et pouvait contenir, accroche-toi, jusqu'à 250 millilitres de lait.
Waouh!
Non, je ne savais pas ça.
Moi non plus!
C'est pas un coin de la ville que je connais beaucoup, d'ailleurs.
C'est énorme!
Ah non, mais c'est... Ah oui!
Mais est-ce que c'était un truc dans lequel on mettait du lait pour vrai?
Ben oui, oui? Je pense.
C'était un gros récipient extérieur.
Ils disent qu'elle peut contenir, puis...
Mais elle n'a jamais été pleine? Est-ce qu'on sait si elle a déjà été pleine?
Ben, c'est ça que je ne sais pas, parce que comme ils disent, elle peut contenir. Est-ce que c'est une supposition, mais ils n'ont jamais mis de lait à l'intérieur parce qu'éventuellement, ce serait du gaspillage?
Ben oui,
ou est-ce qu'ils l'ont fait une fois, puis il est encore en train de fermenter? Ça, il faudrait peut-être aller vérifier.
C'est sûr que c'est plus du lait, là.
Non, à cette heure-là, ça n'en est plus, c'est sûr. Allez, encore une autre.
Ok, c'est une nouvelle moins réjouissante, mais quand même, il faut le savoir. Le 8 juillet 1852, en période de canicule, il y a un énorme feu qui se déclare dans la ville de Montréal. Les policiers, les pompiers sont appelés à intervenir, manque d'eau, les choses se compliquent, il y a un vent de fou qui complique la situation, et il y aura près de 1200 demeures qui vont être détruites et 10 000 personnes qui vont se retrouver à la rue. C'est le grand incendie de Montréal.
Grand Dieu. 1852, non, j'ai pas lu l'histoire de Montréal.
Je savais pas, j'étais pas au courant de ça, mais c'est bien
s'inscrit. C'est fou, hein? Ouais. Ouais. Ah ouais, non, j'ai trouvé plein de petites anecdotes, finalement, quand on cherche un peu, c'est complètement dingue.
Ben on va te faire dorénavant ta chronique, ça va être l'histoire de Montréal, parce qu'avec tout ce que tu as trouvé, tu en as pour un bout.
Non, mais là, alors là, j'en ai une sympa. Et j'ai été dégoûtée, en fait, en lisant l'anecdote, que ce soit obsolète aujourd'hui. Mais quand même, en 91, pour souligner les 25 ans du métro de Montréal, il y a 25 employés du métro qui ont déposé 25 objets dans une boîte en acier. C'est ces fameuses boîtes que tu laisses fermer pendant X temps, puis que tu rouvres un jour pour savoir.
50 ans après ou plus.
Elle a été scellée dans le béton, puis elle a été ouverte en 2016 pour le 50e anniversaire du métro.
Ah bon. D'accord.
Je laisserai faire votre recherche pour savoir ce qu'elle
renferme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Après tout, on peut mettre tout et n'importe quoi, hein, parce que dans tous les films que j'ai vus qui en parlaient, c'était vraiment... chacun mettait un souvenir personnel, pas obligatoirement du métro, peut-être.
Ben, je sais pas. Moi, je pense que ce qui serait malin, en tout cas ce que je trouverais super intéressant personnellement, ce serait d'avoir quelque chose d'époque qui a un lien avec le métro et avec l'époque.
Un vieux billet d'autobus, peut-être.
Ouais, un vieux billet d'autobus, oui, ou une page de journal, tu sais, avec la date, la date du jour, ce qui s'est passé à cette époque-là.
Ou un gros billet tout court, moi je prends.
Ben, s'il est toujours en valeur, sinon ça te sert à quoi? À plus rien.
Oui, mais dans le temps-là, c'était 5
sous.
C'était de l'or.
Ça coûtait rien, hein, j'imagine. Ça devait être un sou, je ne sais pas quoi.
Oui, peut-être.
C'est sûr que moi, un lingot, je ne dis pas non plus.
Oui, si c'était un lingot. Mais ne rêvons pas.
Bon. Non, c'est ça.
Ben, de toute façon, on arrive à la fin de ton entrevue. Et es-tu contente au moins de tout ce que tu as trouvé? Est-ce que ça t'a donné le goût de continuer à rechercher?
Je me suis, alors pour Montréal, pas forcément, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la petite recherche pour Sherbrooke, la ville dans laquelle je vis actuellement.
Ben oui.
Ça pourrait être sympa.
Pourquoi pas apprendre à la connaître.
Le mois prochain.
Alors, moi, du coup, tu m'as donné le goût de rejouer à...
à Trivial Poursuite.
Ouais.
Jouer à une version plus récente, parce que franchement, on s'ennuie à force de perdre. Mais...
Ah non, mais faut pas exagérer, parce que là, c'est sur Montréal. Mais dans la version française, la première version, j'étais toujours super gagnante. Quand ils ont fait le truc pour les enfants, là, avec des questions beaucoup plus récentes, je me suis plantée lamentablement. Donc, moi, je retournerai vers...
Mais il faut lire les questions pendant la semaine.
Oui, c'est ça. Faut que je les travaille.
Faut apprendre.
Faut que je les travaille. Donc, merci, Lem. À bientôt.
Mais ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup.
Voilà, et puis on va se quitter avec Godfrey qui nous chante Gentle on My Mind.
It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that dry upon some line that keeps you in the back roads by the rivers of my memory that keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me. Something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world would not be cursing or forgiven when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind.
suit back from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard a roughening cold towel and a dirty hat pulled low across my face. Through cup hands round the tin can, I pretend I hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memories, ever smiling, every channel on my mind.
Donc restez avec nous, dans la prochaine demi-heure, on parle musique avec Patrick Prévost et en plus, il va nous faire une chanson en live, yes, yes, yes. Alors restez avec nous, dans un instant, on se retrouve, à tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Nous deux sur le balcon, ta clope, mes bonbons, la radio bande AM. De retrait en neuvième. Le frappeur s'élance. Moment de silence. Et la balle voyage au bout de ton âge. Se dire je t'aime, ce n'était pas la peine. Inutile évidence. Est-ce qu'une indécence? Tu retrouves ta jeunesse en doublant les étoiles, t'as mis les voiles dans ton Nova SS. Jaïdine de la route, nous allions droit devant, je me sentais important. J'aurais dû plus souvent sur ton petit tableau blanc te parler de ma vie, allumer tes yeux gris. Tu retrouves ta jeunesse en doublant les étoiles, t'as mis les voiles dans ton Nova SS. Tu retrouves ta jeunesse en doublant les étoiles, t'as mis les voiles dans ton Nova SS. We'll be right back.
Alors voilà, on est avec Patrick Prévost et on vient d'entendre ce qui est le titre de son album, Nova SS, c'est ça ?
Exactement.
Alors, quand j'ai reçu tout sur toi et ton album, je me suis dit, qu'est-ce que c'est Nova SS ? Et là, je me suis rendu compte que c'était une voiture dont les premières datent des années 60.
Ouais, ouais.
Dans la fin des années 60. Enfin, il y en a eu d'autres, mais j'ai été voir ce que c'était. C'est des belles bagnoles, j'aurais bien conduit ça, moi.
Oui, puis à l'époque, ce qui est cocasse, c'est que c'était pas du tout... C'est un muscle car, pour utiliser l'expression anglophone, mais... À l'époque, c'était des voitures pour monsieur et madame tout le monde.
Ah oui,
donc,
d'accord.
C'était une voiture très puissante, comme toutes les voitures américaines de l'époque, avec des gros moteurs, mais c'est ma mère qui conduisait ça, puis mon père allait travailler. Mais quand tu avais besoin d'accélération, ça y allait.
parce que c'était l'Amérique, le nord de l'Amérique. Parce qu'en France, on n'avait pas des grosses voitures comme ça.
Oui, parce que donc, je pense un truc de prix d'essence peut-être aussi.
Oui, il y avait certainement ça aussi, parce que pendant longtemps, il y a eu une grosse différence d'essence. C'était beaucoup, beaucoup moins cher ici, bien que maintenant, ça remonte. De quoi elle parle, cette chanson? Parce que j'ai su que tu l'avais fait en l'honneur de... tes parents, enfin ton papa aussi.
Oui, ben c'est ça. C'est que un peu avant la pandémie, mon père qui avait 93 ans est décédé.
Ah, belle vie, dis donc.
Oui, c'est ça. J'ai une bonne génétique, fait qu'il était rendu au bout de son rouleau, fait que j'ai comme eu envie d'écrire là-dessus un peu, tu sais. Puis malheureusement, trois mois après, ma mère a suivi. Tu sais, souvent les gens
est-ce
disent.
Est-ce qu'il y avait longtemps qu'ils étaient mariés?
Oui, ils étaient mariés depuis. Toujours, là, depuis Mathusalem.
Ben c'est pour ça aussi, tu sais, des fois, quand on est tellement imprégné l'un de l'autre qu'un s'en va et l'autre n'arrive pas à rester.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, puis je crois à ça un peu.
Ah oui, certainement. Donc, c'est une belle chanson qui me donnait l'envie d'être sur la route, tu sais, le coude à la fenêtre, de rouler et puis de te promener puis de chanter en même temps.
Mais c'est un peu ça, la pochette de l'album aussi. J'ai fait faire un dessin par un de mes amis, tu sais, qui représente un genre de monsieur qui est dans l'espace avec sa voiture, tu sais, puis qui s'en va. Tu sais. Fait que, donc, je trouvais que... Parce que, tu sais, on n'a aucune idée comment ça se passe quand on traverse. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, je peux m'imaginer ce que je veux. Tu sais.
Ah ben oui, c'est vrai, t'as le droit de rêver. Absolument. Puis si ça se trouve, t'es dans le bon cheminement et on le sait pas.
Peut-être.
Et quand tu t'en rendras compte, on le saura pas non plus, parce que tu seras pas là pour nous envoyer le message.
On va tous le découvrir un jour, ça c'est sûr.
Non, mais c'est bien. Et puis, ça donne aussi... alors, c'est peut-être moi qui l'entends comme ça, hein, mais j'ai été, à une époque de ma vie, fan de western.
OK.
Et donc, j'aimais ça, ça me fait penser à ça, tu sais, ces grandes... Ces grandes allées, ces grandes routes où tu te balades pendant longtemps, puis où tu vas trouver un ranch, tu vas trouver
y a beaucoup de
des chevaux, des choses comme ça.
Beaucoup de liberté là-dedans, je trouve.
Oui.
Les road songs, là, tu sais, les chansons qui se prêtent à être écoutées en roulant, tu sais, parce que quand tu roules, tu c'est comme si tu écrivais l'histoire au fur et à mesure de ta journée ou de ton périple, tu sais. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive.
Alors, dans cet album, tu as écrit 14 chansons.
Oui, exactement.
Alors, 14 chansons, mesdames, messieurs. Alors, pour ceux qui l'ont déjà écouté, ben, ils le savent. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, chaque chanson amène à une autre aventure, à une autre histoire. Moi, je suis très sensible au texte. Hein. J'aime beaucoup, j'écoute les paroles et tout ça. Donc, chaque chanson m'amenait à quelque chose de différent. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure quand tu es venu, ça a été une difficulté pour moi de choisir.
Okay.
Je ne savais pas lesquelles, j'en aimais une, j'en aimais l'autre, je réécoutais. Alors après, je me suis laissé bercer et par la musique et par le texte pour pouvoir en choisir un peu. Et celle-ci, je la trouvais belle, elle me donnait le départ pour aller me promener.
Ouais.
Voilà.
Ouais, je crois que c'était un peu ça qu'on a voulu faire en faisant cette chanson-là. Tu sais, puis en même temps, quand on écrit des chansons comme ça, on n'a comme aucune idée de la façon que la chanson va prendre son envol, parce que ça se passe en studio, puis on est un peu des apprentis sorciers, on enregistre les bases de la chanson, puis après ça, on superpose des tracks là-dessus, puis on sait pas trop, on sait un peu ce qu'on fait, parce que je travaillais avec un réalisateur qui a de l'expérience, tout ça, mais quand même, on peut jamais prévoir si la chanson va aller dans une direction ou dans une autre, c'est comme si la chanson elle avait sa propre vie à un moment donné, puis elle décidait d'elle-même c'est quoi qui manque, comment elle veut s'habiller, comment elle veut se maquiller, tout ça. T'sais. Fait que donc, on est un petit peu tributaire de ça, si tu veux. On est obligé d'écouter la chanson chemin faisant pour, pour déterminer qu'est-ce qu'elle veut devenir.
Et puis dans l'écriture d'une chanson, il y a aussi le fait d'avoir le premier jet, puis des fois, elle est toute faite.
Ouais.
Puis des fois, tu reviens la rhabiller un petit peu plus, jusqu'à ce que l'album soit complet.
Exactement. Il y a des chansons qui sont... tes enregistres guitare-voix, puis le réalisateur te dit, bon, ben, je pense que c'est ça, tu sais. Je pense qu'il y a comme rien à rajouter là-dessus, tu sais. Ouais. Bon. Puis il y en a d'autres que ça demande un petit peu plus d'habillage, tu sais. C'est comme... je fais souvent le parallèle avec des femmes, tu sais. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'aucun artifice.
Oui.
Qui sont très belles au naturel. Puis il y en a d'autres qui préfèrent s'habiller avec des choses un petit peu plus exubérantes.
Ben, qui ont besoin d'être aidées pour une certaine assurance après.
Ouais,
c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein.
Exactement.
Voilà. Donc ça, c'est ton troisième album.
Troisième album,
Et j'ai lu en lisant sur toi que tu étais quand même un homme de rock.
Oui, ben écoute,
où tu l'as été?
Oui, j'ai déjà été un amateur de rock. J'en ai joué quand j'ai fait mon école. Il y en a qui étudient à l'université la musique. Moi, j'ai étudié la musique dans les bars, avec des groupes de cover, puis on jouait à gauche puis à droite dans tous les bars
du
Québec.
Ça, c'est une super... Enfin, je l'ai jamais fait, mais je trouve que c'est une super belle éducation,
Parce
qu'il n'y a rien de pire que de jouer dans les bars.
Oui, exactement. Fait que quand tu as connu ça, le son est mauvais, le public souvent laisse à désirer, les gens touchent à tes instruments sur scène.
Ça... Ou bien ils parlent.
Ils parlent très fort, oui. Ouais. Ben là, nous, on avait un bon système de son, fait qu'on les entendait pas. On s'arrangeait pour pas trop les entendre. Puis on jouait les chansons des autres, mais en même temps, c'est quand même été une belle école. T'sais, si je compare, mettons, à mon copain Daniel Lacoste qui a réalisé l'album avec moi, lui, c'est un gars de théorie, puis il est allé à l'école, puis il a tout appris sur la musique, puis après ça, il a plein d'expériences de live aussi, tu sais, mais je veux dire, on a tellement des bagages différents, puis c'est le fun de mettre ça ensemble, tu sais. Moi, j'ai comme eu l'école de la rue, là, tu sais.
Ben c'est bien aussi, moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais on va continuer là-dessus, parce que ça t'apprend à être bien dans tes bottes face à un public, tu sais, Tu ne perds pas le nord comme
non,
ça.
Exactement.
Tu sais ce que c'est. J'aimerais ça que tu prennes ta guitare et puis que tu nous en offres une petite.
Je vais vous faire une petite.
Qui s'appelle La Cavale.
La Cavale, oui.
On l'écoute d'abord et on en parle après?
Parfait, on fait ça.
Allez.
Ligne d'amour, sentier qui pique, dans un habitat domestique, et les relations qui s'effritent comme la foi d'un alcoolique. Parti vers une autre contrée, et à nouveau pouvoir compter ces vieilles histoires éculées comme la soutane d'un curé. force de se trouver beau, à égarer tout son troupeau. Un jour peut-être je serai un vieux boc, un vieil élan qui débloque. Et je recevrai peut-être aussi un col qui me fera foncer dans les broussailles. T'as perdu les pédales comme un jeune orignal, rendu à l'aval, un orignal en cavale, un orignal en cavale. T'as perdu les pédales comme un jeune orignal, rendu à l'aval, un orignal en cavale, un orignal en cavale, un orignal en cavale, un orignal en cavale.
Voilà, voilà.
Alors, cette chanson, elle parle de, bah, mon Dieu, de quand on va voir si l'herbe est plus verte chez le voisin.
Oui, un peu.
Je sais pas comment dire ça.
Ben, c'est oui. Ben, c'est une histoire qui arrive dans toutes les familles. Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui,
oui,
un ou une qui décide que sa vie affective, amoureuse,
va prendre une autre direction.
Va prendre,
ouais,
une autre direction.
Oui.
Puis, ben, c'est ça. Fait que donc moi, c'est arrivé dans mon entourage. Puis Il y a une personne qui a vécu une crise de la quarantaine, mais à 80 ans.
Ah, d'accord!
Ce qui m'a fait dire...
Excuse-moi, je devrais pas rire, mais...
Non, mais ce qui m'a fait dire que la crise de la quarantaine, oui, ça arrive à tous les 80. Bon. Méfiez-vous, les gens qui sont
qui croyaient que...
sont dans 70 avancés, là, ça revient.
On peut dire ça aussi. Puis quand on entend les sons qui t'ont plu, t'as une culture. Alors, on en parlait aussi au moment où t'es arrivé. T'es donc d'une famille avec... T'es le petit dernier avec une assez grande différence d'âge avec celui ou celle d'avant, je ne sais pas.
Ouais.
Donc, ça t'a permis de suivre toute leur culture musicale,
exact,
qui était différente, donc d'entendre parler même à ton âge de Bob Dylan. Enfin, je veux dire, la culture, on l'apprend toujours à tout âge, hein, mais, ouais, je veux dire, d'avoir des références tout à fait autres que...
Oui, puis comme j'aimais beaucoup profondément mes frères puis ma sœur aussi, tu sais, j'étais le petit dernier, fait que j'étais tout le temps rendu dans leur chambre, puis eux, ils avaient leur collection de vinyles, tu sais, fait que là, on écoutait ça, puis, tu sais, fait que j'ai entendu tellement de musique différente dans tellement de contextes, tu sais, que j'ai connu le rock, j'ai connu le folk, j'ai connu la chanson française.
Oui.
Mon frère Michel, qui était comme un grand amateur de Brassens, de Barbara, de Brel, même
ça, c'est des textes, hein?
Oui, exactement. Puis même les chanteurs à texte québécois de, oui, l'époque, René Claude,
ben oui,
tout ça. Donc, tu sais, c'était quand même... j'étais exposé beaucoup. Puis en plus, mes frères et sœurs ont tous travaillé comme travail à la Place des Arts, comme placier. Donc...
Moi, ah, ben oui, alors en plus, bonheur!
Alors moi,
je vois bonheur.
À 6-7 ans, tu sais, j'ai, ouais, vu le show de Diane Dufresne avec
oh là là,
ses bottes argent, puis oui, Robert Charlebois, puis j'ai tout vu ça, tu sais, ben jeune, j'ai tout vu les shows, là, tu sais, des artistes québécois, donc ouais, ça m'a vraiment imprégné, puis j'ai comme, bon, quand je fais des chansons, mélange un peu tout ça, tu sais, puis ça donne ça.
Ben c'est du bonheur, donc à partir de quel moment, enfin c'est la guitare qui a été... ton instrument fétiche de départ?
Plutôt la basse, quand j'ai commencé.
La basse, oh, ouais, ça c'est magnifique.
Jouais de la basse.
Le son de la basse.
Jouais, puis c'est difficile de chanter en jouant de la basse. Fait que quand j'ai fait le changement pour faire mes propres chansons, j'ai plutôt, puis composé aussi, tu sais, tu prends pas une basse pour composer. Ouais. Fait que c'est plutôt été la guitare qui est devenue mon instrument de gratouillage, là, oui, pour retrouver les mélodies puis les canevas des chansons. Puis chemin faisant, là, à force de jouer, je suis pas très bon, mais je suis devenu assez bon pour m'accompagner légèrement.
Oui. D'accord.
On va dire ça comme ça.
Mais parce que la basse reste quand même l'instrument. Je m'en suis rendu compte que le jeu de la basse, C'est ce qui te reste le plus là, tu sais, ouais. dans le cœur, dans l'estomac.
C'est
dans
viscéral.
Ouais, ça te rentre là. Ouais. Tu sais pas ce que c'est. Puis quand t'entends ce son-là, tu dis, ah ouais, voilà, ça ouais. me rappelle la chanson. Voilà.
C'est un son qu'on ressent beaucoup, ah, oui. la basse. Hein.
Oui, c'est très physique.
C'est très physique. Puis quand ça arrête, tout le monde, personne ne s'en rend compte quand ça joue.
Ouais.
Ou certaines ouais. personnes plus que d'autres.
Oui,
puis
c'est vrai.
Quand ça arrête, là, les gens font... Ou quand ça fait une fausse note.
Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui s'est
tout
passé?
Tout le monde se rend compte que tu existes quand tu te trompes la basse.
Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique? Parce que tu y étais plongé tout le temps. Pour toi, c'était une évidence parce que c'est ton troisième album. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est ton ouais. troisième album. Est-ce que tu as mis du temps avant d'y aller? Est-ce que tu...
Ben, ça s'est fait, comme je disais tantôt, un petit peu de... J'ai joué dans des bands quand j'étais jeune, dans des shows à gauche, à droite, tout ça. Puis faire le saut vers l'écriture, puis tout ça, puis ça s'est fait un petit peu plus sur le tard parce que pour faire des chansons, il faut avoir quelque chose à dire. Tu sais.
Oui.
S'asseoir puis se dire, genre, je vais composer une chanson, ça prend... Le plus dur, c'est pas d'écrire la chanson, mais de trouver un bon sujet. Tu sais. Quand tu as un bon sujet, ça vient tout seul. Tu sais.
Ça peut être le sujet que tu as pris chez toi, mais de toute façon, même si tu regardes quelqu'un puis que tu bavardes avec lui puis qu'il va t'inspirer une chanson, ça va être ta façon de le voir, ta façon
ouais.
de l'entendre, ta
ouais.
vision. Donc, c'est toujours une petite partie de toi quand
ouais,
même.
Oui, exactement. Fait que donc,
il y a comme une... travers les chansons.
Oui, tout à fait. Fait qu'il y a comme une... Puis il y a un apprentissage là-dedans. Tu sais, les premières chansons que tu fais, des fois, c'est un peu maladroit, ouais. tout ça. Puis à force de... Puis l'industrie a beaucoup changé. Donc, il y a une certaine époque, j'ai fait un album. Puis après ça, ben, il se passait pas ouais. tant d'affaires que ça pour les produits, pour les artistes indépendants, c'était plus difficile dans les années 2000. Fait que j'ai comme mis ça sur pause un peu. J'ai élevé mes deux enfants, ma famille, bon, avec tout ce que ça implique là, oui. de sacrifice d'aller reconduire une partie de hockey
oui,
puis tout le kit. Puis là, ben, comme ça, on est un peu plus vieux, j'ai eu envie de continuer. Ce que
de recommencer. Ouais, ouais. Et puis, on va dire, le seul côté positif que je trouve à ces deux années, c'est que ça a laissé du temps aux artistes pour écrire, pour ouais. composer, pour travailler.
Tout à fait. Donc, tout à fait. C'est ce que j'ai fait. J'avais déjà recommencé avant. J'ai fait un autre album qui s'appelle Feu de Shed, qui ouais. est sur les plateformes numériques. Puis que ça a été comme mon album de relance, exactement. Puis là, quand la pandémie est arrivée, ben, comme la plupart des artistes, je me suis dit, bon, ben, je vais écrire, tu sais, je vais écrire. Puis... Par contre, c'est sûr que les shows, ça manque, là, parce que pour faire vivre un album, oui. C'est important les shows, puis c'est important aussi de monter sur les planches pour...
Puis le lien avec le public, ouais, là. Ouais, et puis nous, on en a besoin aussi, quoi, parce que ça devient étouffant. Puis,
on va dire les vraies choses aussi, pour la plupart des artistes, c'est important d'un point de vue financier.
Oui,
parce que
aussi,
faire des
oui,
shows,
bien sûr.
C'est, parce que les gens n'achètent plus d'albums aujourd'hui oui. dans les magasins, tout ça, donc le revenu... C'est
ça a beaucoup
spectacle, baissé. Radio satellite, puis ouais. c'est à peu près ça. Là,
ouais.
Fait que, c'est important. Ouais. Là, il est temps que
les choses changent.
Je ne veux pas faire un truc politique, mais c'est notre gang, là, les artistes, on est assez payés.
Ouais. Il est temps que les choses changent, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ras-le-bol.
Ouais,
voilà.
Ras-le-bol.
On arrive à la fin de cette entrevue, donc où est-ce qu'on peut trouver ton album? Redonne-nous le titre, où est-ce qu'on peut le trouver, l'acheter?
L'album s'appelle Nova SS, il est disponible sur toutes les plateformes numériques.
Oui.
Donc, puis j'ai fait imprimer quelques centaines d'albums physiques, donc si les gens font moindrement une petite recherche, ils vont trouver ma page Facebook.
D'accord.
Peuvent écrire à mon management, puis on va...
Patrick Prévost.
Oui,
on Prévost, va... Prévost.
Exactement.
Puis voilà.
Je suis facile à trouver, puis là, vous pouvez m'écrire, même en personne, je vais me faire un plaisir de vous répondre, je vais vous envoyer un CD, puis ça va être merveilleux.
Alors, on va se quitter avec une troisième de tes chansons que je vais prononcer mal parce que moi, l'anglais, je ne l'aime pas. Donc, je ne fais pas d'effort dessus. C'est Evie, Evie, c'est
eh
ça
oui, ben oui, tu le dis
et
très bien.
J'ai beaucoup hésité avec une autre, mais c'est celle-ci que j'ai choisie parce que je l'aime beaucoup.
Ben,
aussi.
Ça me fait plaisir parce que c'est la dernière de l'album. Puis, elle s'est retrouvée là un peu parce qu'on trouvait des fois que peut-être on avait... je ne sais pas, on l'a mis là parce ouais. qu'il y en avait d'autres des meilleurs. Puis là, ben, toi, tu choisis
ben,
celle-là.
Moi, je l'ai aimée. Wow. Alors, on l'écoute.
Ça me fait plaisir.
Merci, Patrick.
Merci.
Parti quelque part comme des rockstars, un peu plus élevés. Rouler la nuit, la musique dans le tapis, un peu plus élevés. histoire de nomades, de ceux qui s'évadent. Un homme mad, mad de toi. Un homme mad, mad de toi. Plus de factures, parti à l'aventure. Un peu plus éveillé. Au lever du jour, nous ferons l'amour. Un peu plus éveillé. Le soir frileux, je te ferai un feu. Un peu plus éveillé. Et nous chanterons la vie à plein poumon. Un peu plus éveillé. Bien derrière et tout devant. La route devient le roman. Une histoire de nomade, de ceux qui s'évadent.
Alors voilà, on a fini sur la dernière chanson de Patrick. Enfin, pas sa dernière chanson, je vous assure, mais il y en a plein d'autres très belles sur le CD, j'allais dire. Oui, il y en a un aussi.
Ça trahit nos âges.
Ah. Non, surtout le mien, mais bon, ben, ça faillait, ils le savent, tu sais, depuis le temps que je leur raconte des souvenirs. Donc, merci à vous tous d'avoir été avec, à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. On remercie Lem de nous avoir appris à nous cultiver un petit peu.
Oui,
elle m'a rendue un petit peu plus intelligente, quoique je ne suis pas sûre de me souvenir de toutes les réponses de ce qu'elle a dit, mais je vais essayer d'apprendre.
On a retenu au moins une chose.
Un petit peu mieux, oui. Alors, Patrick Prévost, bonne chance pour toi, pour ton album, pour tout ça. Et puis, la porte est ouverte, tu viens quand tu veux.
Merci Arlette de m'avoir reçu.
Merci Maurice Bolduc pour les musiques et puis pour la technique. Et puis, bon week-end à toutes et tous. Et puis, on se retrouve lundi, même endroit, même heure. À bientôt. Bye.